Bonjour. Notre modérateur n'est pas là, donc on prend le pouvoir, on coach et on va se modérer nous-mêmes comme des grands. C'est donc un débat, conférence, présentation, discussion, ce que vous voulez, sur le rapport, je me souviens plus de l'intitulé, mais en gros le jeu de rôle et l'écriture et les romans, hein, c'est voilà. Ça en gros. Voilà.
Ça me va bien.
Avec des gens autour de la table qui ont été ou qui sont encore dans... qui sont encore dans le domaine du jeu de rôle, qui le pratiquent, ou qui en ont écrit, ou qui ont participé, etc. Et qui sont également dans le domaine de la littérature, de l'édition, de l'écriture de romans. Je vais les laisser se présenter. Je vais vous dire, je vais me présenter moi, je m'appelle Stéphane Marsan, je m'occupe des éditions Bragelonne. Et si je suis à cette table, c'est parce que avant d'être éditeur de romans, j'ai été auteur et éditeur de jeux de rôle au sein d'une maison qui s'appelait Multisim. De 92 à 99, si mes souvenirs sont bons. Et c'est au sein de Multisim qu'un jour j'ai dit « Mais dis donc, pourquoi on publierait pas des petits romans qui se déroulent dans les univers de jeux de rôle qu'on a créés, comme font les Américains depuis 25 ans ?» Et le patron de Multisim m'a dit « Bah dis donc, c'est une bonne idée. C'est toi qui l'as dit, c'est toi qui y es, tu vas t'en occuper. » Et j'ai eu la chance, d'une part, de lancer cette aventure et surtout de rencontrer des écrivains qui étaient à l'époque dans le domaine du jeu de rôle, des gens comme Fabrice Collin et Mathieu Gabory, et de se rendre compte qu'au-delà du jeu de rôle ou à travers le jeu de rôle, ils avaient envie de partager des histoires extraordinaires et à démarrer pour eux une carrière de romancier. Et pour plein d'autres gens qu'on évoquera sans doute. Voilà. Donc c'est ce passé honteux et lointain qui m'amène à cette table, mais je trouve ça absolument passionnant parce que comme on va le voir, je pense qu'il s'est passé à l'époque avec le jeu de rôle pour l'imaginaire français romanesque quelque chose de très 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 important. Et ce sera sûrement intéressant de savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce que les relations entre le jeu de rôle et le roman, l'édition littéraire sont toujours aussi vivaces? Je vais donc proposer immédiatement à mes voisins de se présenter et je vais commencer par Thomas.
C'est bon. Donc Thomas Géa, écrivain de fantasy, de science-fiction, fantastique, un peu tout. J'ai écrit des romans comme Le Sabre de Sang en fantasy, voilà, pour les échecs critiques. Je suis aussi éditeur sous mon vrai nom, Xavier Delot, des éditions Ad Astra, un petit éditeur qui débute. Et concernant le jeu de rôle, c'est vrai que je ne suis pas forcément le plus spécialiste de tous, mais c'est vrai que j'en ai fait à peu près toute ma vie depuis que, entre guillemets, je joue au Playmobil. Donc pour moi, c'est une forme de jeu de rôle. Et j'ai continué après dans évidemment le vrai jeu de rôle, avec justement en découvrant les univers créés par les auteurs que Stéphane Marsan a pu publier d'ailleurs chez Nemos, et puis par les jeux de rôle publiés par Multisim. Voilà. Je vais essayer de faire ça. Mon collègue d'à côté, Franck Ferric.
Bonjour à tout le monde, donc moi c'est Franck Ferric. Comme mon collègue, je suis aussi auteur de bouquins fantasy, un peu SF, un peu fantastique, un peu tout. Et j'ai commencé à écrire moi aussi du coup en lisant des livres qui étaient des univers de jeux de rôle. Et j'ai commencé aussi du coup à écrire des jeux de rôle, des scénarios de jeux de rôle, ensuite en se développant sur des nouvelles, j'ai commencé à publier. C'est toute la faute au jeu de rôle. J'en fais moins maintenant parce que forcément j'ai plus de temps que les copains se dispersent. Mais je continue quand même à faire du jeu de rôle, mais sous une autre forme, comme de grandeur nature, d'une manière un petit peu plus physique. Voilà, c'est tout ce qui va être là pour le moment.
Alors à ma gauche, c'était donc plutôt les romanciers. À ma droite, deux garçons qui représentent la Fédération française de jeux de rôle. Donc qui vous êtes et en quoi ça consiste? Alors c'est quoi l'activité de la FFJDR?
Présente-toi.
Présente-toi. Okay. Alors je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Lucien Pagnon, j'ai 25 ans. Je suis rôliste depuis un petit moment. Et donc on a déjà un petit point commun, c'est que j'ai commencé moi aussi avec les jeux multisim, mais notamment en lisant des livres Stéphane sur Guild, puisque j'étais...
Je suis désolé.
Et je joue toujours à Guild d'ailleurs. donc voilà. Et donc je suis administrateur à la Fédération française de jeux de rôle. un organisme qui existe depuis 1995 ou 1996.
Ça fait 15 ans cette année.
Voilà, c'est les 15 ans de la FEDE cette année, et qui œuvre à la fois pour la promotion du jeu de rôle, pour faire découvrir le jeu de rôle auprès du grand public, qui sont presque tous rôlistes sans le savoir. Donc on essaie de leur montrer que le jeu de rôle, ils en font depuis qu'ils sont tout petits sans le savoir, et que c'est bien. Et puis également, on essaye de structurer, de professionnaliser un milieu qui, comme il est très vivant, très foisonnant, plein de bonne volonté et de gens voilà, qui, chez eux, jouent à plein de choses intéressantes, qui justement qui produisent du contenu, qui écrivent, des gens qui ont des clubs, des gens qui jouent seuls chez eux, etc., et qui ont besoin de se rencontrer, qui ont besoin de se parler. Donc on essaye de faire en sorte que ce petit monde se parle entre les responsables d'associations, les boutiques qui vendent du jeu de rôle, les éditeurs qui en écrivent, ceux qui voudraient en écrire, qui ne savent pas trop comment faire, les gens qui jouent, à quoi ils voudraient jouer pour que voilà, les demandes correspondent aux offres. Et voilà, on essaye un petit peu de faire vivre ce petit milieu, mais peut-être que notre président, à côté de moi, Thomas Labrel, vous en parlera mieux que moi.
Merci Lulu, toujours un plaisir de faire des confs avec toi parce qu'on a l'impression qu'on a répété. Bonjour à tous, merci de votre présence. Thomas Laboré, président sortant de la Fédération Française de Jeux de Rôle, puisque dans peu de week-ends, ce sera notre Assemblée Générale Annuelle, où en principe, je ne serai pas candidat pour la deuxième fois à ma propre succession, attendu qu'il n'y a pas marqué Laurent Gbagbo ici. Je suis très sensible aux propos de mon camarade de gauche qui disait « jeu de rôle Playmobil », ça fait partie des positions qu'on tient à la Fédération Française de Jeux de Rôle, de dire, comme l'a souligné Lucien, qu'on est tous rôlistes en fait, puisqu'on a tous joué, on dirait que je serais un bon et que tu serais un méchant, et que si ça peut ensuite trouver son chemin dans une expression formalisée d'une fiction au travers de la littérature, de la BD, de l'audiovisuel sous toutes ses formes, du jeu vidéo ou de quoi que ce soit, ben tant mieux, ça fertilise l'imaginaire. Bon, ce qu'on fait à la Fédé, Lulu l'a parfaitement résumé, on explique aux gens ce que c'est que le jeu de rôle, et bizarrement un certain nombre de gens qui se croient rôlistes s'aperçoivent qu'ils ne le sont pas, ou qu'ils pourraient faire des choses différentes, en plus, qui enrichiraient, sans cesser de faire ce qu'ils font, et aussi que plein de gens qui ne le savaient pas sont déjà rôlistes en fait, au travers des Playmobil ou de la littérature fantastique ou d'autres choses. Je pense qu'il y a une distinction qu'il faut faire assez vite, surtout si les gens dans la salle ne sont pas tous des grands spécialistes, c'est que le jeu de rôle, c'est deux choses, c'est des supports matériels et c'est une activité. Le plus important, c'est l'activité, c'est jouer, on dirait que je serai un bon et tu seras un méchant, mais avec une perspective d'adulte et pas forcément qu'une perspective d'enfant. Et ça, c'est en soi une activité de conception et d'animation fictionnelle, au même titre que la littérature ou l'audiovisuel, ou enfin, toute forme d'expression de l'imaginaire. Donc forcément, le fait de relater ce qui s'est passé ou de relater ce qui aurait pu se passer pendant une partie est en soi matière à littérature et à écriture, puisqu'on est sur l'écriture ici. L'autre élément, c'est qu'être capable de s'asseoir avec une bande de potes autour d'une table et d'improviser ex nihilo complètement la partie, y compris l'univers, y compris le scénar, y compris le système, c'est quand même de la haute voltige. Donc la plupart du temps, on parle d'un support écrit qui est un univers. Donc là... pseudo-conquête du Nouveau Monde dans Guild.
On va pouvoir dire ce qu'on veut.
Je vais continuer à faire de l'IKEA pour meubler
j'arrive.
Avant qu'il s'asseye.
C'est un nouveau concept, c'est le modérateur arrive en dernier.
Voilà, c'est tout modéré. T'as été un bon modérateur, ça a été super modéré. Donc, se mettre d'accord sur un univers, se mettre d'accord sur un système de résolution et se mettre d'accord sur un scénar. Et ça fait aussi littérature, c'est-à-dire qu'écrire un univers de façon que ce soit fun et qu'on y trouve des révélations et qu'on ait envie de le lire et qu'on ait envie d'y jouer, écrire un scénar d'une manière qui fait que c'est à la fois facile à utiliser pour le meneur de jeu en cours de partie, mais aussi que c'est rigolo à lui pour le lire avant et qu'il se pose lui-même la question de savoir qui est le méchant et que quelque part c'est un acte de littérature, c'est aussi vachement intéressant, mais avec des règles d'écriture qui ne sont pas celles de la littérature narrative classique. Donc je pense que ça va être des éléments qui vont structurer nos échanges. Ça promet d'être assez rigolo et je pense que c'est bien si le modérateur aussi a des choses à dire en fait.
On va essayer. Pardonnez-moi pour le retard. Oui, mais je trouve que c'est une bonne piste justement déjà de voir un peu comment à la fois vous pouvez vous inspirer des lectures que vous pouvez avoir des gens de l'imaginaire et puis voir aussi comment les auteurs de leur côté, eux, peuvent s'inspirer peut-être des techniques... de jeux de rôle justement dans la travail. Moi je pensais justement à oui par exemple moi ce qui m'a frappé par exemple en lisant Le Sabre de Sang Thomas c'est que il y a beaucoup de scènes de combat dedans, or si je parle sous contrôle hein, mais les combats dans les jeux de rôle ils sont pas forcément extrêmement décrits, ils sont très imaginés. Est-ce que c'est une particularité justement quand on veut travailler sur la description d'un combat, sur une scène de bataille?
Quelle est la particularité de quoi?
De la manière de l'écrire, comment est-ce qu'on le met vraiment en scène avec les mots?
Alors, mettre en scène une scène de combat avec les mots a tout
tout en étant en rapport avec les jeux de rôle.
Ben oui.
Si bien compris. Bah effectivement, ouais, bon, déjà quand on fait des jeux de rôle, on apprend à se créer notre propre imaginaire, on apprend à se visualiser les scènes qu'on est en train de vivre. Donc je crois que le lien en fait entre l'écriture et les scènes qu'on écrit sont assez logiques. Le pont se fait assez facilement.
D'accord.
C'est-à-dire que bon, c'est une question quelque part d'habitude. Vu qu'on en faisant du jeu de rôle, on a l'habitude de visualiser les scènes, même si on ne dit pas, on a l'habitude de les visualiser. Finalement, quand on les écrit, c'est un peu la même chose. Sauf que là, on est beaucoup plus dans sa tête et on est devant sa feuille ou devant son ordi. Et on essaye de mettre en mots ce qu'on visualise. Quand on fait une partie de jeu de rôle, c'est exactement la même chose pour moi.
Et sur la rythmique, c'est pareil aussi ?
Sur la rythmique, bon, tout dépend de la scène qu'on écrit, bien sûr. Quoi. Bon, ça peut aller plus vite quand on fait un jeu de rôle, évidemment. Hein, de toute façon, un coup de dé suffit parfois. Voilà, mais après, sur la rythmique elle-même, c'est quelque chose qui se travaille différemment. Moi, ça dépend vraiment du contexte du bouquin, en fait, du contexte de la scène. Enfin, le personnage peut avoir des motivations pendant la scène de son combat qui peuvent ralentir peut-être un petit peu le rythme de temps en temps. Il voit plus les choses autour de lui. Voilà. Ou alors, il est complètement dans la force brute, il ne pense pas. Et il va franco, quoi. Il tranche à l'hache. Voilà. Mais. Bon, ça dépend en fait. Ouais.
Mais l'écriture, elle impose aussi au lecteur l'imaginaire de l'auteur. Est-ce que, justement, quand on est lecteur, on n'est pas un peu moins libre que quand on est rôliste ?
Quand on est lecteur ?
Oui. Est-ce que c'est pas un peu plus balisé, le roman ?
Non, le roman n'est pas plus balisé. Hein. Après, bon, il faut quand même avoir une certaine forme de structuration. En termes d'écriture, c'est évident parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. On ne peut pas faire une scène qui va durer 43 pages et juste pour plaisir de sabrer, quoi. Voilà. Moi, je crois que le plaisir, en fait, de la description reste le même, que ce soit en tant que rôliste qu'en tant qu'auteur. Parce que, bon, même quand c'est un jeu de rôle, on peut se permettre d'écrire exactement ce qu'on veut, avec le temps qu'on veut, même si ça emmerde les autres rôlistes qui sont en train d'attendre leur tour.
Franck Féric, justement, pareil, un peu le vous voyez des différences entre ces deux aspects.
La différence au niveau de l'écriture, on ne voit pas trop, si ce n'est que quand on joue avec des joueurs, en général, on les connaît, donc on essaie aussi de leur faire plaisir, on sait ce qui va leur plaire, on sait ce qui va les agacer, on sait qu'il y a des choses qu'on peut les jouer forcément, donc ils vont partir en cacahuète, donc le jeu va partir en cacahuète, on ne le fait pas. Par contre, là où je vois plus une différence, c'est le lecteur est quand même plus. Enfin, quand un roman, est quand même plus passif parce qu'il n'a pas le choix à faire finalement, par rapport à une partie de jeu de rôle. Donc à la limite, le média bâtard, ce serait le livre dont vous êtes le héros. À une certaine époque où là on avait encore des choix, le lecteur pouvait
lire toujours. Choix,
mais oui, c'est plus il y a vraiment un chemin de fer quoi quand même.
Oui.
Le lecteur peut pas sortir du roman.
C'est l'auteur qui emmène vraiment voilà. Par la main le lecteur.
Donc, du point de vue du maître de jeu, à la personne qui écrit son roman, il y a moins de différence, mais par rapport au lecteur et au joueur, là il y a une différence.
Et sinon, dans la description des univers, dans la manière dont on plante le décor, est-ce que finalement, là, le travail est le même ? Est-ce que on laisse pas encore un peu plus de liberté
Quand on, enfin, pour l'expérience que j'en ai, essayer de créer un univers pour un roman original, ça revient à peu près à créer un univers pour un jeu de rôle. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui ne vont pas transparaître dans le roman, on va quand même y penser, nous, de notre côté, ce sera écrit quelque part pour qu'au final ce soit cohérent. Je pense que le lecteur le ressent derrière, c'est pas juste un décor en carton pâte, quoi, que derrière on a pensé aux choses et qu'il y a une petite épaisseur.
Et les mêmes éléments ont la même importance, que ce soit un univers montagneux, maritime.
À mon avis, oui. Si c'est bien fait, logiquement, on est censé, par un bon sens, voir toutes les. Des facettes de ce qu'on écrit, qu'on soit maître de jeu, créateur du monde, qu'on soit auteur de livres, c'est mon avis.
Stéphane, même petite question, même point de vue. Est-ce que les passerelles sont si évidentes que ça, finalement, entre le roman et le jeu de rôle?
Je pense que depuis, en gros, la fin des années 70, il y a une rencontre inévitable entre les univers et la pratique du jeu de rôle et la lecture et l'appréciation des romans d'imaginaire, en particulier la fantasy. Le jeu de rôle a été un vecteur d'imprégnation et de familiarisation avec la fantasy énorme. Je pense qu'à peu près tout le monde s'est trouvé à une table de jeu de rôle à jouer à Donj avant d'ouvrir un roman de fantasy. Moi, j'ai découvert Lovecraft grâce à l'appel de Cthulhu, par exemple. Ce qui est particulièrement étonnant, vu que Lovecraft avait été reconnu et popularisé en France bien avant. Enfin, c'était l'un des rares auteurs de fantastique contemporain, enfin du siècle, qui avait été reconnu bien avant que le jeu de rôle arrive. Je pense que la différence fondamentale entre le jeu de rôle et le roman, c'est l'économie de l'histoire et de l'univers. C'est-à-dire qu'un jeu de rôle, c'est quelque chose qui est fait pour pouvoir vivre, raconter et jouer le plus d'histoires possible. Un roman, c'est la seule histoire possible. C'est la seule qui compte vraiment. C'est-à-dire que Tolkien, quand il fait Le Seigneur des Anneaux, il a un putain de background et il se dit, il faut que je raconte une histoire. Laquelle? Quel moment? Quel personnage dans 3000 ou 4000 ans de mythologie, d'histoire, etc. Donc, et ça, c'est un truc qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ce qui permet de finalement prolonger un peu la conversation tout à l'heure sur les manuscrits et qu'est-ce qu'on attend des textes, etc. C'est parce qu'un roman de fantasy, c'est pas une encyclopédie. C'est pas, alors dans l'univers, il est comme ci, comme ça, etc. Non, je m'en fous. Je veux lire un roman, je veux lire une histoire avec des personnages. Et donc, l'enjeu majeur, c'est cette histoire et ces personnages, et le contexte, tout l'imaginaire qui est autour va venir soutenir, enrichir et conditionner cette histoire. Ce n'est pas l'inverse. Le jeu de rôle, c'est d'abord, on le sait tous, quand on pitch un jeu de rôle, c'est, bah alors l'univers c'est quoi? Okay. Et alors je joue quoi? Donc ça vient dans un deuxième temps. Bon, et alors le système, il est comment? Donc, la priorité, elle est complètement inverse. Ce qui a été à la fois l'expérience extraordinaire des premiers auteurs de fantasy français venus du jeu de rôle, soit parce qu'ils y avaient travaillé, soit parce qu'ils en étaient imprégnés, et les premiers auteurs que j'ai publiés chez Mnemos, Gabory, Colin, Grimbert, Klotzer, voilà, c'est même des gens que j'ai été chercher dans le milieu du jeu de rôle, quoi. Pierre Pevel était un auteur de jeux de rôle, etc. etc. Donc c'est l'expérience que ces gens ont dû faire, c'est-à-dire il y a quand même un changement d'attitude créatif majeur entre voilà ce que je dois déployer pour faire le meilleur jeu de rôle possible et voilà ce que je dois proposer dans un roman, et c'est exactement l'inverse. Le deuxième aspect qui me paraît hyper intéressant, c'est une boutade que avec mon ami Gérard Guéraud, alias Ange, en tant que... Ça, c'est le double effet Gérard Guéraud. Je voudrais qu'on le sache.
On invoque son nom.
Voilà, on invoque son nom. Il y a toujours un truc qui se casse la gueule.
La moitié masculine de Gérard.
Voilà, et on va jeter un dé pour faire les dommages. Donc, Gérard a été, sous le nom de Géuran, un auteur de jeux de rôle. Il est devenu traducteur, il est devenu romancier. Et c'est surtout aujourd'hui, sous le nom d'Ange, un grand scénariste de bande dessinée. Et quand on a tous les deux quitté le milieu du jeu de rôle et qu'on s'est retrouvé, moi éditeur, lui romancier, traducteur, etc., on s'est dit avec Gérard, le jeu de rôle mène à tout, à condition d'en sortir. C'est-à-dire que dans l'univers du jeu vidéo, dans l'univers de la bande dessinée, dans le roman, la littérature, etc., etc., je veux dire, notre génération, alors pour le dire très vite, entre les gens qui ont entre 20 et 45 ans, sont tous passés par le jeu de rôle, soit professionnellement, soit dans la pratique, soit en tout cas, on a entendu parler, et je ne parle même pas des jeux vidéo en ligne, qui pour nous ne sont pas des jeux de rôle, World of Warcraft, etc. etc. ou en tout cas, qui emprunte énormément au jeu de rôle dans le décorum, la définition du personnage, etc. Et ça, je voudrais le problématiser, parce que j'aimerais bien avoir l'avis de mes amis autour, enfin surtout de ce côté-là, c'est dire le jeu de rôle mène à tout à condition d'en sortir, c'est un formidable hommage au jeu de rôle, mais c'est aussi un terrible constat d'échec. Ça veut dire que dans le jeu de rôle, on ne pouvait pas gagner sa vie, ça veut dire que dans le jeu de rôle, tous les contrats étaient léonins, voilà. Et donc finalement, il fallait y échapper pour produire au-delà du jeu de rôle quelque chose où on allait utiliser tout ce qu'on y avait appris et tout ce qu'on avait aimé dedans. Donc, finalement, moi, j'aimerais poser une question aux amis qui, ici, représentent la communauté rôliste. C'est comment ça va le jeu de rôle aujourd'hui? Quelle est sa vitalité? Quelle est sa population? Bref, c'est quoi est-ce qu'on peut s'attendre à toujours autant de créativité et toujours autant d'apparitions d'écrivains et d'artistes qui viennent de la pratique du jeu de rôle?
La question, c'est un peu comment va l'univers, la vie, le reste. Je pense que ma réponse ne va pas être brève. Juste, comme un certain nombre de sujets ont été évoqués, beaucoup de choses ont déjà été dites. Il y a peut-être une perspective rôliste à apporter sur ce qui a été dit. Je vais essayer d'aller très vite sur chacun des points. Le premier point, c'était les combats. Je pense que Lucien a pas mal de choses à dire là-dessus, mais sur le... Pour moi, on est passé dans les années 70 du jeu de guerre au jeu de rôle, quand on a cessé de se poser la question, ce fantassin-là, quelle est sa probabilité de survie à cette situation, si tu utilises telle tactique, sera-t-elle optimale quant à ses chances de vaincre l'ennemi et de s'en tirer avec des dommages minimaux, quand on a quitté cette problématique-là pour entrer dans la problématique, le fantassin, là, compte tenu de son origine sociale, compte tenu des copains qu'il a vus mourir, etc., comment il le vit le fait d'être dans la tranchée? Ça, c'est le passage du jeu de guerre, qui est un jeu simulant, au jeu de rôle, qui est un jeu de ressenti et un jeu de décision. Première chose. Donc je pense que cette coloration-là sur la violence, on doit la voir dans le jeu de rôle. Ça ne veut pas dire que c'est la même en littérature, parce que la littérature peut avoir un point de vue, donner un angle différent, et parler au travers du regard d'un personnage qui peut être légèrement différent. Et ça, pour moi, c'est un élément rôliste fondamental. C'est-à-dire, on est insensiblement, et ça se voit encore dans certains systèmes de résolution, passé de systèmes utilitaristes, où on essaye de voir ce qui se passe, à une approche réellement rôliste qui est « oui, mais qu'est-ce que j'éprouve ?» Deuxième chose. Sur la rythmique elle est importante, notamment dans les combats, parce que le jeu de rôle comme il est collectif repose fondamentalement sur un équilibre entre le temps de parole et surtout l'intérêt du jeu pour l'ensemble des participants, meneurs et chacun des joueurs. Donc il est important que les combats notamment soient rythmés avec une espèce d'alternance entre les uns et les autres pour que chacun ait ses 5 minutes de gloire ou ses 5 secondes de gloire tournante, récurrente, pour qu'il ne s'ennuie pas pendant la partie, parce que s'il s'ennuie, il va se tirer et il ne va pas revenir, et il va dire ce jeu-là, ou ce groupe-là, ou ce meneur-là, j'ai pas envie de jouer avec.
Parce que ce qu'on attend, c'est d'être acteur et pas spectateur.
Exactement, ce qui va rejoindre ta question tout à l'heure sur les lecteurs, qui est super intéressant. Autre élément sur jeu de rôle, grandeur nature qui a été évoqué, moi je ne joue pas aux grandeur nature, donc je ne suis pas compétent dessus, littérature et audiovisuel. Une chose qu'on a tendance à dire, à tort ou à raison, c'est que le jeu de rôle est à la littérature, ce que le jeu de rôle sur table est à la littérature, ce que le grandeur nature est à l'audiovisuel. Je veux dire par là que le jeu de rôle, il est verbal, il est oral, il décrit avec des mots. Ces mots, on pourrait les écrire aussi bien, mais on est bien dans du langage qui suscite, si c'est bien fait, des images dans la tête. Chacun ayant des images différentes. Jusqu'à ce qu'on les ait vues en film, on voyait tous les personnages de Tolkien ou de Lovecraft ou de je sais pas quoi, différemment. On voyait tous Galadriel comme la plus belle femme du monde, mais elle est différente pour chacun d'entre nous. Et pour les femmes aussi, d'ailleurs. Alors que dans le Grandeur Nature, on n'est pas dans cette visualisation, on est dans la représentation, avec des armes extrêmement bien fichues, parce que les technologies, la mousse, permettent de faire des jolies choses, avec des beaux maquillages, des beaux costumes, des beaux décors, une posture d'acteur qu'on n'a pas forcément dans le jeu de rôle, on est plus narrateur. Donc on va plus se rapprocher du théâtre ou du cinéma, avec voilà, il faut qu'on se mette d'accord sur si ce qu'on visualise fait naître, ce qu'on regarde tous ensemble fait naître les bonnes émotions. Sur la posture du lecteur, donc effectivement tu l'as très bien dit, le lecteur il dévore la littérature, mais il n'est pas forcément passif, parce que là aussi ça fait naître des images, des sensations, des envies d'agir autrement, alors qu'en jeu de rôle, il ne va rien se passer s'il ne dit rien. Donc on est à un degré encore plus primal de « qu'est-ce que vous faites ?» qui est la question récurrente du meneur de jeu. Alors je suis Frodon, est-ce que je jette le putain d'anneau? Est-ce que je le garde? Qu'est-ce que je fais avec Gollum qui s'accroche à mes basques? Voilà. À cet égard-là, c'est intéressant de se dire que finalement, la posture d'un certain nombre de gens vis-à-vis du jeu de rôle comme vis-à-vis de la littérature, toutes ces choses de littérature de fantasy, toutes ces choses qui sont un peu de niche, un peu exclusives, tout le monde ne connaît pas, et un peu symboliques, iconiques, qui font appel à des choses très profondes, beaucoup de combats, beaucoup de magie, beaucoup de sentiments, beaucoup de trahison, beaucoup d'amour, beaucoup, voilà, on est toujours dans des thèmes assez... on est loin des romans très modernes du quotidien, où les gens racontent leur life, qu'ils ont pris un coca, et voilà. On est vraiment sur des choses très primales, très symboliques. Il y a une chose qu'on se dit, c'est les gens qui ont lu Tolkien, il y en a eu un peu deux catégories. Il y a eu ceux à qui ça a donné envie de lire Beowulf, il y a ceux à qui ça a donné envie d'écrire Shannara. Donc on est à nouveau dans la fertilisation croisée. Je remonte aux sources elles-mêmes, ou bien je vais moi-même être source de quelque chose de nouveau, qui on peut juger à titre critique qu'il est dégradé ou qu'il est une prolongation, peu importe, c'est pas le débat, mais il y a bien une chaîne d'articulation chez le lecteur comme chez le joueur de rôle. Sur les univers, je pense que Stéphane a été très très bon là-dessus. Fondamentalement, on écrit un univers fantastique, un univers imaginaire pour supporter de la littérature dans la mesure où ça va être intéressant dans l'histoire. Il y a plein de choses qui ne sont pas décrites dans Dune. Il y a plein d'univers dans lesquels on ne sait pas ce qu'ils bouffent, on ne sait pas comment ils s'habillent. Il y a des univers qui jouent là-dessus, où certaines choses ne sont jamais décrites, certaines créatures ne sont jamais décrites, uniquement l'effet de terreur ou d'inquiétude qu'elles produisent. En jeu de rôle, on ne peut pas, parce qu'il faut qu'on y joue. Donc on ne peut pas tellement laisser entendre, il faut beaucoup plus qu'on décrive, y compris numériquement. Donc le monstre, il a telle taille. On sait en jeu de rôle si l'hippopotame est plus fort que l'éléphant, pour reprendre un truc du film de Les Nuls, une comédie familiale, qui sont rôlistes au passage. On sait effectivement, maintenant qu'ils ont tous été adaptés avec le D20 système dérivé de donjon, exactement qui est plus fort entre Cthulhu, Elric de Melniboné, Darth Vader et quelques autres. On le sait, on a leurs caractéristiques, on peut les comparer. Donc ce côté finalement très enfantin et très geek je sais pas quoi, d'abord Zorro il est plus fort que Batman, on peut le faire en jeu de rôle. Et donc c'est pas du tout la même approche de l'univers, les éléments qui sont saillants dans l'univers sont pas les mêmes. Alors sur Tolkien, et c'est intéressant de mentionner Tolkien, lui a une approche très différente puisque finalement on peut lire ses romans comme du narratif, mais on peut lire tout le corpus qu'il n'a pas publié mais que son fils a joyeusement publié, comme bien que ce soit sous une forme de fiction littéraire, l'encyclopédie qui est derrière. Donc justement lui il nous dit, pas dans les romans, mais il nous explique dans des notes et dans des pages et dans des trucs, il nous explique en fait ce qu'il bouffe et en fait pourquoi il s'habille comme ça et en fait pourquoi le nom il est comme ça et que l'autre le prononce différemment. Et on a tout ce background qu'il a présenté non pas comme une encyclopédie mais comme de la fiction littéraire, mais il a été le premier à faire ça. Et ça a vachement alimenté les autres. Lovecraft ne l'a jamais fait, par exemple. Et son univers n'est pas du tout aussi cohérent. Mais ce qui est marrant, c'est ce que
et
tu disais.
Et du coup, a donné lieu à un jeu de rôle complètement différent.
Mais voilà. Donc d'ailleurs, ça donne une énorme vitalité au Lovecraftianisme. Il y a des Lovecraftiens ici. Et c'est clair que la vision de Brian Lumley n'est pas la vision de Richard Tierney et n'est pas la vision qu'avait, en même temps que Lovecraft, Howard Smith. Bon. Et c'est aussi marrant ce que tu disais. J'ai découvert Lovecraft en jouant à l'appel de Cthulhu. C'est pareil aux États-Unis où Lovecraft est beaucoup moins connu qu'en France. Toute la génération actuelle de gens qui écrivent, notamment sur le web, mais pas que, des romans Lovecraftiens, j'en ai deux dans ma poche là, sont des gens qui l'ont découvert par le jeu. Et donc qui ont une approche du mythe qui est assez intéressante parce qu'elle est très souvent colorée par, non pas je décris des situations d'épouvante cosmique, mais je décris ce que mon personnage y fait. Éventuellement, il en meurt et il devient fou, comme dans Cthulhu. Mais il y a une posture beaucoup plus centrée sur le personnage, qui était totalement absente de Lovecraft lui-même, dont les personnages sont des interfaces transparentes pour le lecteur, mais qui ne font rien dans l'histoire. Quant à ta question, enfin, le jeu de rôle mène à tout à condition d'en sortir. Oui, bien sûr, mais bien sûr que non. C'est intéressant comme réponse, ça. C'est-à-dire que oui, dans l'univers de l'imaginaire, oui, il mène à tout, parce qu'il a tellement obligé à sortir d'une posture passive et consommatrice et à devenir acteur de son propre jeu de rôle, d'abord parce que chaque partie oblige à répondre à la question « qu'est-ce que vous faites ?» 217 fois d'affilée, mais en plus, toujours on tripote le système, toujours on se recrée un nouveau perso, toujours on fait joujou avec ce qui n'est pas explicite dans l'univers, toujours on s'amuse à écrire un petit scénar, on finit par écrire des jeux, on est super actif, super responsabilisé dans le jeu de rôle. C'est la seule forme performative dans laquelle on est à la fois auteur, acteur, metteur en scène et public, tour à tour au sein d'une même partie. Donc, oui, évidemment que ça permet d'aller dans n'importe quoi qui va... Ça mène peut-être pas au fait d'être expert comptable, mais ça mène très probablement au fait d'être metteur en scène, d'être dessinateur,
il y a certains
d'être
systèmes
auteur,
qui t'y incitent pas mal. Quoi.
Bon, alors, on va citer Aftermath, Space Opera, Hallmaster... bref, mais... Oui, ça mène à tous ces trucs-là. Mais je ne suis pas sûr qu'on en sorte. C'est-à-dire que je pense qu'on peut faire sortir l'homme du jeu de rôle, on ne peut pas faire sortir le jeu de rôle de l'homme. Et effectivement, si on lit la fantasy récente, si on regarde un certain nombre de séries télévisées américaines récentes qui ont été des cartons, il est clair, indépendamment des private jokes compréhensibles par les gens du milieu, que l'approche narrative, elle est fondamentalement rôliste. Pareil pour les comics. Il y a énormément de choses où on voit qu'ils ont raisonné partie de jeu de rôle, qu'ils ont raisonné, mais là, ce personnage, il devrait faire ça, là, l'interaction entre eux, elle est là, et lui, il n'a pas la capacité d'eux, donc il le fait faire par l'autre. On voit les sous-jacents rôlistes.
Bon,
Buffy contre les vampires est évidemment une série éminemment rôliste. Alias, même combat. Bon, ça date un peu, mes références, on est un peu années 2000, mais voilà. Donc, il y a effectivement une pervasivité maintenant de l'approche rôliste de la narration qui, à mon avis, se retrouve partout. Donc, constat d'échec, je pense pas. Quelque part, quand on arrête de parler de toi comme d'un phénomène de société et que tout le monde reprend ta sémantique sans savoir d'où il l'a chopé, c'est que tu es devenu viral.
C'est qu'on a diffusé.
Voilà. Tu n'existes plus en tant que tel, peut-être, mais tout le monde est comme toi. Alors oui, quand on aimait être les 5 personnes au monde qui savaient ce que voulait dire « Two-Round Dead Sword » ou « Hobgoblin », il y avait un côté « on fait partie d'une élite », au sens « lite L3T ». Bien sûr, maintenant on ne l'a plus. Maintenant, tout le monde vous parle de gobelins dans les rues parce qu'ils ont vu les films de Jackson sur Tolkien. C'est un bien, c'est un mal. Je pense que c'est une tendance inéluctable. Je pense que le cinéma a commencé comme un art forain, on l'a très bien vu dans le magnifique Hugo Cabret de Scorsese. Il est maintenant des trucs en millions de dollars et avec une caution critique, culturelle, des subventions de l'État et machin. La bande dessinée, même combat. Sfar fait des films, voilà, super. D'ailleurs, il est rôliste, Johan Sfar. Je pousse un peu les potes quand même. Le jeu de rôle, c'est pareil, il est inéluctable que demain, tout le monde ait des boîtes de jeux de rôle chez lui et il joue avec ses enfants comme il joue au Millboards. Il est inéluctable qu'il y ait des émissions de jeux de rôle à la télé, des émissions où on joue au jeu de rôle, pas des émissions où on explique que « oui, Mireille, je sacrifie les bébés ». Ça arrivera, tôt ou tard, ça arrivera parce qu'on va devenir mainstream. On va peut-être le regretter, mais on n'y échappera pas et quelque part, c'est bien. Donc ouais, ça mène à tout, mais on n'en sortira jamais complètement.
Mais alors, moi, je vais reprendre quand même cette thématique-là avec les deux auteurs qui sont avec nous, parce que je trouve que Stéphane est très pessimiste sur cet aspect-là. Est-ce que vous n'avez pas, vous, auteur, l'impression qu'il y a une complémentarité véritable entre votre position de d'auteur de jeux de rôle et d'auteur de roman? Est-ce qu'il n'y a pas il y a une vraie filiation quand même? Il n'y a pas une rupture entre les deux?
Bon, enfin, moi, je ne suis pas auteur de jeux de rôle, hein. Je me suis contenté d'être un joueur passif. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que là où tu as sans doute raison, c'est qu'il y a, il y a vraiment un grand lien entre le jeu de rôle et l'auteur, mais surtout entre le maître de jeu et l'auteur. Parce que quelque part, le maître de jeu, dans un roman, c'est l'auteur. C'est lui qui crée son background, c'est lui qui l'investit, c'est lui qui le prend totalement en charge. D'ailleurs, effectivement, en tant qu'auteur fantasy, on a toujours des backgrounds qui sont faits, qui sont refaits, qui sont refaits. On a plein de fiches, on a plein d'informations, etc. Exactement comme dans un jeu de rôle, en fait. Hein. C'est exactement la même chose. Sauf que, comme jeu de rôle, on n'utilise pas tout. On utilise des morceaux, on utilise ce qu'on a besoin pour telle scène, pour tel passage. Mais on a la même réflexion de base qu'un maître de jeu de rôle qui va construire aussi son jeu de rôle, hein, si c'est lui qui l'a fait, hein, évidemment. Voilà. Mais je pense exactement à la même structure d'esprit que cette personne qui dirige enfin, les joueurs. En fait. Nous, c'est pareil, hein, en tant qu'auteur, on dirige des joueurs aussi, qui sont les lecteurs. Donc, je pense qu'on a effectivement une grande ressemblance, et c'est pas étonnant finalement qu'on soit à la fois rôliste et à la fois auteur. Hein. Moi, je pense que très sincèrement, ce sont deux activités qui se ressemblent fortement.
Ouais. Franck.
Bah, moi, je suis complètement ce qu'il y a des filles, d'autant que le terreau culturel qu'il y a, qu'on trouve chez les amateurs de jeux de rôle et puis chez les auteurs de fantasy, bah, c'est fantastique. C'est de toute façon la même chose, c'est les grandes épopées. Voilà, on parle de la même chose, on parle de la même origine, on répond aux mêmes images. Ce qui fait que les passerelles sont naturelles, que ce soit du jeu de rôle vers la littérature, de la littérature vers le jeu de rôle. Après, c'est sûr qu'au niveau professionnalisation du milieu, ça fonctionne différemment, c'est certain. Le jeu de rôle a malgré tout toujours une image geek assez dépréciative. Je ne sais pas si ça changera jamais, je ne sais même pas si c'est souhaitable que ça change d'ailleurs.
Voire parfois franchement négatif.
Oui, bien sûr. Oui,
au-delà même du phénomène geek, ça peut même être parfois côté presque sectaire.
Bien sûr, bah, surtout dans le milieu du monde de la nature où les gens, des petits patins, voient des poulets, des gens habillés avec des tentacules, des trucs comme ça, ça fait un peu bizarre. Ouais. Ça fait un peu bizarre, ça peut choquer. Ça passe bien à la télé en tout cas.
Est-ce que c'est pas la maturité, le roman, par rapport au jeu de rôle, Stéphane ?
Non, moi, non, je crois pas. Quand je parlais de constat d'échec, toute l'analyse que tu as faite est absolument époustouflante de qu'est-ce que c'est le jeu de rôle, comment ça fonctionne, etc. Mais ce que tu décris, enfin, je veux dire, son échec et son triomphe. C'est-à-dire, c'est pas parce que le jeu de rôle est partout qu'il a gagné. Enfin, c'est pareil pour la SF. La science-fiction, elle est partout, sauf dans la région de science-fiction. Les résultats, elle se vend pas du tout. Et en termes d'industrie, le jeu de rôle a failli y croire dans les années 90 et ensuite a cessé d'y croire. Donc, je pense que, voilà, il faut pas s'abuser. Moi, je pense qu'il ne deviendra jamais mainstream, comme le manga est jamais devenu mainstream, mais pourtant le manga, il se vend à 250 000 exemplaires. Quoi. Je pense qu'on reste. C'est le jeu de rôle. Enfin, ce que tu as décrit sur l'image du jeu de rôle, c'est quand même encore une partie très immergée de l'iceberg. Moi, je connais très bien le milieu anglo-saxon, ou même vous allez à la Comic-Con à Paris, tout le cosplay, etc. Des gens qui sont quand même beaucoup plus bizarres que tous les rôlistes que j'ai rencontrés dans ma vie. Et c'est formidable, c'est merveilleux. Moi, je trouve ça génial, c'est hyper créatif, et c'est un trip qui n'est pas très loin du jeu de rôle, mais qui en même temps est évidemment assez différent. Je pense que je pense que ça sera jamais mainstream. Alors peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien. Mais par contre, enfin, il faut pas se tromper sur l'appropriation et sur l'imprégnation de choses qui sont passées par le jeu de rôle, de certains plaisirs et de références et de registres imaginaires, etc., etc. Et l'activité elle-même et l'industrie qui passe par ça. Donc, si tu veux, historiquement, oui, je crois que ça a été une forme de maturité, c'est-à-dire que les gens qui ont été auteurs de jeux de rôle et qui sont devenus romanciers ne sont pas revenus dans le jeu de rôle. J'ai, en quelque sorte, un bémol à apporter à ça que je trouve hyper intéressant, c'est ce qui se passe, par exemple, en ce moment avec les éditions Sans Détour, qui est un éditeur de jeux de rôle, et qui adapte en jeu de rôle La Brigade Chimérique, la série de bandes dessinées publiée par la Talente de Colin Lehmann et quelques autres copains, Les Chroniques des Féales de Gabory, dont j'ai publié les romans avant, et là, bientôt, Les Lames du Cardinal de Pierre Thévenne. C'est-à-dire adapter des ouvrages et des séries littéraires françaises d'imaginaire en jeu de rôle, dans ce qui est, à mon avis, le plus intéressant de ce point de vue-là du jeu de rôle, c'est-à-dire la création continuée. Tu as proposé quelque chose, et nous, on s'y met aussi, on prolonge ton univers, etc. Et on lui, voilà, avec, évidemment, l'assentiment, le contrôle de l'auteur, etc., ce qui est absolument génial. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que ça ne veut pas dire que... Bon, Gabory, c'est un cas particulier, parce que lui, il a toujours été très attaché au jeu de rôle, et il voulait depuis toujours revenir au jeu, et en refaire, etc., mais, et en réécrire. Mais ça veut dire que... même après avoir atteint, si tu veux, une sorte de maturité, c'est-à-dire je fais une carrière de romancier et je ne suis plus un auteur de jeux de rôle, notamment parce que de toute façon, je n'ai pas pu gagner ma vie dans le jeu de rôle, quand même pas oublier cet aspect-là. C'est une industrie de happy few, c'est un... Bon. Mais, tu disais, on n'en sort pas parce qu'il y a une sorte de deuxième vague, si je puis dire, d'adaptation en jeu de rôle de ces gens qui avaient proposé autre chose... Bon. Et ça, là encore souvent, je me fais le porte-parole, je fais écho de la situation anglo-saxonne. Je te remercie infiniment d'avoir cité Shannara de Terry Brooks, publié aux belles éditions Bragelonne, qui en effet est la première grande série de fantasy écrite par un type, un étudiant, qui s'est dit « Moi, j'aime Walter Scott, j'aime Ivanhoé, j'aime le roman de KPDP français, j'aime Alexandre Dumas. » Et quand il est tombé sur Tolkien, et quand il a découvert Donjons et Dragons, il s'est dit « Ok, j'ai trouvé exactement ce que je vais faire. Je vais, bon. » Ou Feist, hein, magicien, la saga de Condor, qui est publié en 82, où Feist a cessé de remercier tous ses Friday Nighters, c'est-à-dire tous les gens qui jouaient avec lui le vendredi soir au jeu de rôle. Et Feist est un ami, et c'est un très très grand auteur, et il est toujours aussi attaché. Et quand il raconte ses parties de jeu de rôle de quand il était jeune, il a des trémolos dans la voix. Et c'est, pas si vous connaissez très beau film adapté de la nouvelle de Stephen King, The Body, Stand By Me, qui est les amis qu'on a eus quand on était jeune restent évidemment les gens qu'on aime le plus toute sa vie. Et ben le jeu de rôle fait partie de ça. Donc, pour finir de te répondre sur la maturité, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez connaturel ou consubstantiel à l'adolescence dans le jeu de rôle, et c'est pour ça que c'est bien. C'est-à-dire, sans doute pour plein de raisons psychologiques que notre ami analyserait infiniment mieux que moi, mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez infantile qui ne cesse de revivifier, qui ne cesse d'apporter une fraîcheur à tous les raconteurs d'imaginaire, que ce soit de Joss Whedon à Peter Jackson, en passant par les écrivains, etc. Et qui fait que, pour encore citer un ami que vous connaissez tous, qui est Fabrice Colin. Colin, il écrit maintenant du roman jeunesse chez Albin Michel, il a un thriller qui arrive chez Sonatine, etc. Donc c'est quelqu'un qui est passé par le jeu de rôle et l'imaginaire, et qui est maintenant dans le mainstream, là pour le coup, la littérature générale, non imaginaire, sérieux, etc. Et Fabrice, m'a dit un jour, en prenant un café, m'a dit, mais le rêve de ma vie, c'était d'écrire la saga de fantasy française, de restituer le plaisir que j'ai eu à jouer à Warhammer et à lire Magicien, et je ne l'ai pas fait, et c'est un véritable regret. Donc, en effet, il y a quelque chose qu'on n'oublie jamais dans l'expérience fondamentale du jeu de rôle aujourd'hui. Et je vais finir là-dessus. Des gens, encore, qui ont été dans le jeu de rôle, comme Mathieu Gabory ou Anne Guéraud, l'autre partie de Ange, font jouer des petits cousins qui ont 9 ans, et à chaque fois me disent, c'est extraordinaire, ce qui se passe là, c'est vraiment de l'ordre du miracle, et donc il y a une pratique du jeu de rôle qui devient un peu familiale, un peu, etc., qui se fait sans règles, sans bouquins, etc., mais une espèce de... Donc, un peu comme une tradition orale du jeu de rôle,
exactement,
qui continue et qui est extrêmement, extrêmement précieuse.
Vous êtes de grands enfants, alors, en fait.
Ouais.
Dans le bon sens du terme, en plus, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça.
Non, bien sûr. Bien sûr, il y a en fait une... C'est une appropriation, le jeu de rôle, par les adultes, de la chose la plus essentielle, sans doute aussi la plus nécessaire de la pensée, de la constitution, de la personnalité pendant l'enfance, qui est effectivement ce fameux jeu du « on dirait que je serais ». Cette identification...
Le gendarme et le voleur.
Voilà, à un personnage.
J'aurais aimé revenir aussi sur tout le monde veut être voleur.
Sur un certain nombre d'éléments qui sont passés pendant toutes ces choses passionnantes que j'ai entendues, notamment sur les points communs, les distinctions. On a vu jusque-là qu'il y a évidemment un point commun qui ressort aux yeux de tout le monde, c'est le fait que, comme résultat de ces deux processus créatifs que sont le jeu de rôle et l'écriture, on a l'élaboration d'une fiction. Ce que j'aimerais dire, c'est que dans le processus de l'écriture, c'est le but, l'élaboration de fiction, premier élément, et que deux, on l'a noté, c'est asymétrique, dans une certaine mesure. Il peut y avoir des prolongations, on l'a vu, chacun se fait son idée, mais c'est quand même effectivement l'auteur qui conduit le lecteur. Et les bons auteurs, on le voit par exemple dans les auteurs qui font des romans à suspense, c'est celui justement qui sait conduire son lecteur, le tenir jusqu'au bout. Dans le jeu de rôle, l'élaboration de fiction, c'est le résultat finalement de la partie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut raconter, dont on peut se souvenir, qu'on peut évidemment mettre après sur le papier. Mais au début, le but, il est uniquement dans la posture de l'identification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de but d'élaboration de fiction forcément au départ. La fiction, c'est le contexte, c'est ce que ça produit aussi autour, c'est l'univers, c'est un bénéfice collatéral, comme vient de le dire Thomas. Mais le but, c'est cette posture de dire, si j'étais ce personnage, placé dans cette situation, comment je réagirais et qu'est-ce que je ressentirais.
On peut dire que le roman, c'est un produit fini. Alors que le jeu de rôle, finalement, tout est à construire.
Alors voilà, j'allais y venir. Les deux autres distinctions, c'est il y a évidemment le temps réel et le temps différé. On conçoit aisément le fait que le roman, l'auteur l'écrit dans son coin, et puis après, ça ne lui appartient plus, ça part dans la nature, et puis il y a le temps de la lecture, et puis le temps, voilà, il y a tous ces temps-là qui sont des temps séparés. Dans le jeu de rôle, les deux choses essentielles, c'est qu'on est en temps réel, et qu'on est effectivement dans du collaboratif. Et ça me permet de revenir aussi sur ce que tu disais par rapport au rapport entre meneur de jeu et auteur. Je pense que les choses sont un peu moins évidentes et séparées que ça, parce que comme l'a rappelé Thomas, dans le jeu de rôle, chacun est tour à tour, un petit peu en même temps, un petit peu à la fois l'auteur, parce que finalement même les joueurs qui n'ont pas écrit le scénario de départ, c'est-à-dire l'amorce de la situation, par les actions qu'ils vont entreprendre, ils changent l'issue de chacune des scènes, donc ils sont auteurs. Ils sont évidemment acteurs parce qu'ils sont les personnages, mais le meneur de jeu l'est lui aussi puisqu'il va incarner les personnages secondaires. Ce que je veux dire, voilà, c'est qu'on est dans une dynamique de groupe et dans une narration collective. Et ce qui compte à ce moment-là, c'est le temps de la narration et ce que chacun y vit. Donc après, ça peut susciter des prolongations après, mais voilà, on est sur une distinction, voilà, une chose un peu différente. Par rapport aussi à ce qui a été dit sur les rapports entre les univers de fantasy, les univers fantastiques, et le jeu de rôle et les œuvres qui se passent dans ces univers. Il y a quelque chose qui me semble, enfin moi, assez importante. Si peut-être s'il y a une telle fertilisation croisée entre les deux, c'est que c'est l'un des codes de la fantasy, du fantastique et de la science-fiction, que la précision des descriptions des environnements et des capacités des êtres qui y vivent, des lieux que l'on y découvre. Parce que comme l'avait souligné Thomas, le personnage de jeu de rôle n'est pas un personnage de roman. C'est-à-dire, c'est un personnage de jeu, et en tant que tel, le personnage de jeu de rôle est défini par ce qu'il sait faire, et pas par ce qu'il est, ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent, c'est le joueur qui va le vivre par procuration. Le personnage de jeu de rôle, c'est par exemple, si on dit, il se rapproche beaucoup, par exemple, du personnage de comic. C'est pour ça qu'on, dans les comics américains, j'ai entendu une fois Thomas faire cette belle comparaison, Superman, on ne sait pas tellement ce qu'il pense ou ce qu'il ressent, mais par contre, on sait qu'il vole. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que le personnage de jeu de rôle est un personnage de jeu, donc il est défini par ce qu'il sait faire, il est construit sur ses statistiques, et évidemment aussi il est ensuite imprégné par ce que le joueur visualise. Voilà, donc on est un petit peu dans ces distinctions-là, et pour terminer, un dernier point que je voulais souligner, par rapport justement à l'écriture et puis aussi aux autres formes de jeux qui sont proches du jeu de rôle, que ce soit, on l'a dit, les livres dont vous êtes le héros, etc. Pour moi, il y a deux choses qui sont essentielles, qui permettent sans doute d'y voir plus clair. C'est que, un, comme on peut dire que les échecs sont un jeu de stratégie, que le Monopoly est un jeu de société, je pense qu'il est important de dire que le jeu de rôle est un jeu de décision. C'est-à-dire que ce qui fait l'essence même d'une partie de jeu de rôle, c'est qu'on place les joueurs à travers leur personnage dans une situation et qu'on leur pose cette fameuse question « qu'est-ce que vous faites ?». C'est-à-dire que l'intérêt du jeu, ce n'est ni l'univers, ni les capacités du personnage, c'est pas l'essentiel, voilà, ni finalement ce qui va se produire, c'est le fait d'être à chaque instant placé dans cette position, de prendre une décision. Et le deuxième élément, et je termine là-dessus, c'est que dans ce processus, ce qui est essentiel, étant donné qu'on est en temps réel, c'est l'échange verbal, sémantique. Alors il peut y avoir des gestes, des accessoires, mais tant que la parole, l'échange, le discours reste le centre de la simulation, on est dans le jeu de rôle. C'est-à-dire que on peut tout à fait prendre quelque chose qui n'est pas du jeu de rôle au départ, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, on a pris un jeu de guerre, un jeu de simulation martiale, et puis on en a fait un jeu de décision, un jeu de rôle. On peut tout à fait prendre les Playmobil, qui sont réédités jeux de rôle et jouer au Playmobil, mais ça veut dire aussi que beaucoup de choses qui s'intitulent jeux de rôle, parce qu'ils sont dans ce bain commun dont on a parlé, la fantasy, parce qu'il y a des elfes et des gobelins, parce qu'il y a des univers très détaillés, parce qu'on prend la parole à la première personne, pensent qu'ils sont des jeux de rôle, mais en fait ils n'en sont pas forcément parce qu'ils ne proposent pas au centre du jeu cette prise de décision. Elle y est peut-être présente, mais si au centre du jeu il y a la tactique d'une unité armée, si au centre du jeu il y a le fait de construire une histoire en cas d'Abrexit, tout ça c'est très bien, on n'est pas contre, mais on n'a pas au centre de ça la prise de décision et ce temps réel et cette création collaborative qui est le centre même de l'expérience rôliste.
On est parfois rôliste sans le savoir finalement, comme Monsieur Jourdain.
Bah absolument, puisque nous avons tous été enfants et nous avons tous joué à Rendir quelque chose. Et en fait finalement, nous le sommes toujours parce que on est tous à un moment ou à un autre de notre vie entre dire « Tiens, si j'avais été un tel, moi je pense que j'aurais plutôt fait comme ça. » Ou « Si j'avais été dans cette situation, on voit la télé, je sais pas, si j'avais été sur le Concordia Quantico, comment est-ce que j'aurais réagi ?» Et bien cette posture, le fait de se dire « Tiens, comment j'aurais réagi ?» et le petit sel que ça suscite, quels que soient les événements aussi tragiques qu'ils soient, ou aussi comiques, ou aussi quels qu'ils soient, ça veut dire qu'on est tous rôlistes.
Mais ça rejoint ce que disait Stéphane sur le fait que notre copine Anne Guéraud et quelques autres font jouer leurs enfants, font jouer des enfants, ou des pré-ados. On est tous rôlistes, on le voit très bien. Ce réflexe de dire « Ah ouais, alors d'accord, alors on pourrait faire ça, mais c'est plus fun si je fais ça, mais l'autre ça va le foutre dans la merde, alors je le fais exprès pour l'emmerder, ou je le fais exprès pas parce que je veux pas l'emmerder, parce que je veux être pote avec lui. » Ces réflexes de cours de récré, on les retrouve, mais instantanément, à tout âge. Et le jeu de rôle, fondamentalement, c'est ça, quoi. C'est cette convivialité du 421 autour, en plus, de l'exigence d'une cohérence fictionnelle commune. Et c'est pour ça, pour répondre à la question sur la vitalité du jeu de rôle, je la mesure pas au nombre de ventes, je la mesure pas au nombre de jeux qui sortent, et encore, je trouve qu'il en sort beaucoup plus maintenant qu'il y a quelques années. Mais je pense que la vitalité, elle est là. Elle est dans le fait que tout le monde est rôliste, et que toujours il y aura des gens, même si tous les éditeurs faisaient faillite, même si le concept disparaissait de Wikipédia, de toute façon, il y aura des gens qui le réinventeraient 2 ans plus tard. La raison pour laquelle on ne le voit pas, c'est que le milieu n'est pas structuré, malgré nos efforts depuis 15 ans, mais qui ont été en dents de scie. Et que donc, il y a des problèmes générationnels. Tu l'as dit, le jeu de rôle, c'est adolescent. Les gens qui dépassent de beaucoup la sortie des études, l'entrée dans la vie de couple et dans la vie professionnelle, et qui ont donc moins le temps et l'état d'esprit à jouer, arrêtent de jouer pendant une période prolongée et s'y remettent avec leurs gamins. Et donc, on a observé au moins 4 fois dans l'histoire du jeu de rôle des compressions brutales du milieu qui joue, qui achète et qui crée, parce que massivement une classe d'âge arrivait à maturité, et le temps qu'elle se recharge par redécouverte, par compagnonnage, par contagion, par viralité, il y avait un peu de temps avant que le marché reprenne. Donc c'est normal, c'est un rythme. On va en sortir. Si effectivement ça devient un petit peu plus habituel, un petit peu plus accepté, et que les gens s'aperçoivent plus qu'ils sont rôlistes, on lissera ces pics et ces creux. Et d'autre part, une des raisons aussi pour lesquelles un certain nombre de rôlistes sont partis chercher autre chose dans d'autres médias connexes, c'est parce qu'ils cherchaient aussi une légitimité. Tu dis, ils n'arrivaient pas à gagner leur vie, mais aussi, ils n'existaient pas. Qu'est-ce que tu as écrit? Des scénarios de jeux de rôle. Ok, qu'est-ce que tu as écrit? Alors quand on dit, j'ai écrit des romans et je m'appelle Mathieu Gabory, ça a plus de sens quand on dit, j'ai écrit 2 jeux de rôle qui s'appellent Abyss et Agone et qui sont vachement bien, machin. Donc je crois qu'un certain nombre d'auteurs sont partis avec quelque part complexés par le statut, par l'image sociale qu'on leur envoyait du rôliste, ont trouvé une légitimité dans la littérature fut-elle de niche. C'est dire à quel point le jeu de rôle est bas. Je crois qu'il n'y a que les comics aux États-Unis dans les années 60 qui sont encore plus bas, ou 70 ou 50. Et donc, maintenant, le fait aussi qu'ils portent haut la bannière de dire « je suis rôliste » et « je suis aussi quelqu'un que vous lisez » et « vous êtes tous rôlistes » aide énormément la cause du jeu de rôle. Mais je pense aussi qu'ils auraient été moins malheureux, indépendamment de l'impact social, ils auraient été moins malheureux économiquement dans le jeu de rôle si le modèle économique du jeu de rôle avait été plus adapté aux médias. Le problème, c'est que personne ne s'est posé la question du modèle économique du jeu de rôle. Les gens faisaient des wargames, des boîtes dans des boutiques spécialisées que les gens achètent sur étagères parce qu'ils ne peuvent pas les acheter ailleurs, parce qu'ils ne vont pas fabriquer eux-mêmes les plans d'hexagones et les pions et les figurines en plomb. Et on a gardé le même modèle pour les jeux de rôle qui en sont issus, ce qui est une idiotie. Alors ça a évolué, notamment en France, vers un jeu de rôle plus littéraire, plus sous forme de bouquins dans des librairies, et même dans des Fnac et dans des Virgin. Mais même, en jeu de rôle, on n'achète pas un pavé pour y lire l'imaginaire d'un autre. C'est pas ça. Le jeu de rôle, c'est un art performatif, si tant est que ce soit de l'art. Mais en tout cas, c'est une activité performative. Donc c'est peut-être plus autour de l'événementiel, du concert ou du mécénat, de subventionner quelqu'un pour être créatif parce qu'on sait qu'il est bon et qu'il va produire des choses qui vont donner du plaisir à d'autres, que là, il y a des modèles économiques à trouver dans lesquels nous, on prétend qu'on peut gagner sa vie, ne serait-ce que parce que la Fédé commence à bien gagner sa vie. Beaucoup plus, depuis deux exercices, sur le performatif, l'événementiel rémunéré, que sur les cotisations de nos membres. Donc, je ne sais pas si c'est la conclusion, ça peut être la conclusion parce qu'on n'a plus
ça
le temps,
l'être.
Mais je ne sais pas si c'est une conclusion. Mais en tout cas, au Laker, rôliste, on va peut-être même pouvoir, peut-être pas gagner du pognon, mais montrer que le jeu de rôle ne vaut pas rien, qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour jouer, payer pour faire jouer, payer pour avoir du matériel pour jouer, parce qu'ils trouvent que c'est bien et que c'est développant. Et nous, en tout cas, on en fait la preuve à la Fédé.
Bah, en tout cas, c'est une discussion qui méritera peut-être d'être continuée après sur les stands et hors de ce cadre de la table ronde. Mais en tout cas, vous voyez, il y a vraiment une lignée, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, voilà, il y a vraiment cette complémentarité. Je pense que plus qu'une opposition, finalement, comme on peut peut-être parfois le dire ou le penser quelquefois. Donc... Profitons-en, les rôlistes sont les bienvenus dans un salon, a priori plus
les
un salon du livre,
parmi nous.
Mais en tout cas, voilà, vous êtes dans les bienvenus.
Merci
beaucoup.
Merci à tous.